8h, le journal de Pierre Pilet. Bonjour Pierre.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
À la une ce matin, les intempéries dans le sud-ouest, fin de l'alerte rouge dans les Landes et les Pyrénées-Atlantiques, mais toujours la vigilance. Les cours d'eau sont en crue, des habitants ont dû quitter leur maison. Nous allons les entendre juste après les autres titres.
Des contrôleurs dans les trains qui vous rappellent avec humour l'obligation du port du masque, embarquement dans un instant. Élection municipale en Cisjordanie, peu de suspense avec le boycott du Hamas. Dans notre calendrier de l'Avent France Inter, on a pour vous aujourd'hui un beau livre sur la construction du musée Yves Saint-Laurent de Marrakech. On a aussi de la Coupe d'Europe de rugby et du football dans le journal des sports avec Jérôme Val.
Et à partir de 8h20, le grand entretien avec Yaël Braun-Pivet, députée La République En Marche des Yvelines et présidente de la commission des lois à l'Assemblée nationale. Après 4 ans à l'Assemblée, elle publie un plaidoyer pour un Parlement renforcé.
France Inter. Fin de l'alerte rouge météo France dans les Pyrénées-Atlantiques et les Landes, mais la vigilance reste élevée. Plusieurs secteurs inondés après de très fortes pluies. Le plus sinistré se trouve dans le sud des Landes où une cellule de crise est ouverte depuis hier à Peyrorade. Des habitants n'ont pas pu dormir chez eux, Victoria Coussa.
Effectivement, plus d'une centaine d'habitations sont vides. Hein. Ce matin, ils sont quelques centaines à avoir dû quitter leur maison dans la précipitation. La plupart de ces habitants sont allés chez des proches. Pramucho, c'est lui, réfugié avec ses 4 enfants dans une salle communale pour la nuit.
Ah ben oui, de toute manière, l'eau, on peut rien faire. Hein. Le feu, on peut faire quelque chose, mais l'eau, c'est le pire. Quand ça arrive d'un coup. Et là, c'est vrai que ça fait 2 années à la suite qu'on a l'eau qui arrive, mais vraiment d'un coup. Et c'est comme si c'était un barrage qui avait pété et ça truc...
Il a vu l'eau des Gaves réunie, le cours d'eau juste devant chez lui, monter au fil des heures hier, comme il y a 2 ans. Kelly, sa fille de 18 ans.
Je voyais les troncs d'arbres passer dans le Gave à 20 km/h. Enfin, c'est impressionnant en fait. L'eau, elle arrive, on se fait emporter, on ne voit plus quoi. C'est fini quoi. Moi, j'étais à côté, j'avais peur quand même. C'est impressionnant. J'ai jamais vu ça. Quoi.
Cette famille fait partie de la petite dizaine de familles accueillies cette nuit par cette cadre de la Croix-Rouge.
C'est d'apporter du réconfort, du soutien, surtout de la chaleur, de les mettre en sécurité et de les rassurer. On s'adapte heure par heure, minute par minute. On a une logistique qui est quand même assez importante. S'ils ont besoin, on est là.
Le pic de la crue a été atteint à minuit avec 5,52 m d'eau pour les Gaves, précisément, ce cours d'eau de Peyrorade. Un nouveau point de la cellule de crise est prévue à 10h ce matin, mais on sait déjà qu'il n'y a pas eu d'intervention des pompiers cette nuit à cause des inondations dans le département. Ce qui attend maintenant les habitants, c'est le constat des dégâts, puis le nettoyage qu'ils connaissent bien, puisqu'ils subissent ces inondations quasiment chaque année à la même période.
Victoria Coussa, merci, avec Gilles Gallinaro dans les Landes pour France Inter. 6 départements du sud-ouest actuellement en vigilance orange. Au risque de crue s'ajoute la menace d'avalanche dans les Pyrénées. Risque d'avalanche également dans les Alpes, vigilance orange dans les Deux-Savoie et l'Isère. Autour de la Normandie, des Hauts-de-France et de l'Ille-et-Vilaine, de déclencher à nouveau le plan blanc dans les hôpitaux pour affronter la 5e vague de Covid, réorganiser les services, déprogrammer certains actes, se concentrer sur la réanimation, voilà ce que permet la mesure. Près de 2500 malades atteints du Covid sont en soins critiques. En ce moment, les autorités politiques sanitaires appellent chaque jour toujours plus au respect des consignes sanitaires. Et pareil pour les contrôleurs dans les trains, eux qui s'assurent que les voyageurs gardent bien leur masque. Alors, les agents doivent parfois se montrer imaginatifs pour se faire entendre, Julien Morcelli.
L'humour, lors des annonces au micro, c'est devenu la technique de ce contrôleur à bord d'un Paris-Marseille.
Mesdames, messieurs, s'il vous plaît, nous comptons sur vous. Je vous rappelle que le masque, ça va recouvrir le menton, la bouche et le nez inclus, même si on a un grand nez et des lunettes comme moi.
Dans ce TGV, Guingamp Paris, son collègue se prend même pour un animateur de colonie de vacances.
Vous pourrez faire des grimaces aux contrôleurs sans qu'ils s'en aperçoivent. Notez tout de même que ces derniers sont eux aussi équipés de masques et qu'ils ont cette option également.
Mais parfois, les annonces sont moins drôles, presque infantilisantes.
C'est pas la peine de grignoter pendant tout le voyage. Voilà. Suivant l'humeur du moment, on se dit oui, bon, c'est bon, on a compris.
Mais ils ont leur raison, lui répond Naïma. Elle est contrôleuse à Paris-Montparnasse.
Et ben, quand ils l'ont répété 10 à 15 fois en une petite demi-heure, au bout d'un moment, oui, ils commencent à être un peu plus poussés dans leurs propos.
Elle-même ne compte plus les incivilités des voyageurs pour éviter le masque.
Alors, le plus fréquent, c'est quand ils dorment. Le masque est toujours en dessous du menton. Et le café qui dure, ouais, une demi-heure, 3 quarts d'heure. Parfois les sucettes aussi. Et ils estiment que c'est mangé, donc la sucette, c'est très long.
Certains passagers font même mine d'ignorer les écriteaux qui interdisent de manger dans la voiture bar.
Parce qu'ils ont vu qu'il y avait une étiquette d'un côté, mais pas de l'autre, donc on le rappelle. C'est fatigant.
des comportements qui restent minoritaires. D'après la SNCF, seuls 5% des passagers doivent être rappelés à l'ordre.
Reportage Julien Morcelli.
8h05, la suite du journal Pierre Pilet. Que va-t-il se passer entre Londres et Paris?
Le Royaume-Uni avait jusqu'à hier soir pour régler le litige autour de la pêche avec la France, c'est-à-dire accorder une centaine de licences supplémentaires pour travailler dans les eaux britanniques. Rien de nouveau ce matin au terme de cette échéance fixée par la Commission européenne. Commission qui temporise Angélique Boin.
Du côté de la Commission, le climat était hier plutôt confiant et le ton nettement moins agressif que les échanges entre Londres et Paris. Ici, on ne parle pas d'ultimatum, a pris soin de préciser Viviane Lonella, la porte-parole en charge du dossier. Il y a une volonté mutuelle d'aboutir, a-t-elle ajouté, en insistant sur les progrès déjà réalisés.
Nous voyons que pendant ces discussions que la Commission a eues, il y a déjà 95% des licences qui ont été demandées, qui ont reçu une réponse positive.
Soumis à une forte pression de la France, les négociateurs de la Commission ne ménagent pas leur peine depuis quelques semaines face aux Britanniques. Mais réussiront-ils à obtenir la totalité de la centaine de licences encore réclamées par nos pêcheurs? Pas sûr, car tous les dossiers présentés par Paris ne sont pas strictement éligibles, selon une source européenne. Hier, le secrétaire d'État français aux affaires européennes a d'ailleurs laissé la porte ouverte à une nouvelle prolongation des discussions. Si les Britanniques nous donnent quelques dizaines de licences supplémentaires, nous continuerons peut-être à dialoguer, a dit Clément Beaune. Le bras de fer politique n'est donc peut-être pas terminé. Bruxelles, Angélique Boin, France Inter.
La France pourrait demander à Bruxelles d'engager un contentieux au cours du week-end. Deux nouvelles plaintes contre PPDA déposées cette semaine. Une femme accuse l'ancien présentateur de TF1 de l'avoir agressé sexuellement au Club Med de Valmorel en Savoie. C'était en 2013. Elle y travaillait comme hôtesse d'accueil. Seconde plainte pour viol, cette fois au moment du Festival de Cannes en 1985. La plaignante avait 20 ans. Dans les deux cas, les faits sont prescrits. C'est le seul rendez-vous qui permet aux Palestiniens de déposer un bulletin dans l'urne. Élection municipale en Cisjordanie, 154 localités concernées pour cette première partie du scrutin. Pas beaucoup de suspense avec le boycott du Hamas qui reproche à l'autorité palestinienne de ne pas organiser de scrutin présidentiel et législatif. Pour les citoyens, l'important c'est surtout de s'exprimer. Reportage de notre correspondante à Ramallah, Alice Froussard.
C'est uniquement dans les petits villages palestiniens que l'on peut sentir une ferveur électorale, des discussions entre familles, des questions sur le vote des uns et des autres. Ailleurs, l'élection de samedi passe inaperçue, explique Farid Tamalla, porte-parole du comité central des élections.
Comme le Hamas boycotte les élections municipales en Cisjordanie, leur absence rend la compétition électorale très faible. Si le Hamas participait, évidemment, les Israéliens auraient aussi restreint la campagne.
L'importance de ce vote, c'est surtout le processus démocratique, car ce sont les seules élections ayant lieu en Palestine, explique Ibrahim, 32 ans, qui vient de Jifna, un village à côté de Ramallah.
On n'a jamais eu de réelle vie démocratique. Notre Parlement a été suspendu depuis 2007 et il n'y a pas eu d'élections législatives depuis.
Mais dans cette première partie des élections municipales, on vote surtout pour des familles ou des tribus, plus que pour des partis politiques ou des factions, et il n'y a souvent qu'une seule liste, continue-t-il.
Et j'aimerais que dans le futur, nous, Palestiniens, voterons pour les programmes des listes et non pas pour les relations que l'on peut avoir aux candidats de ces listes. Car on a besoin de changement et ce changement peut venir de ces petites élections municipales.
Un bon début, ajoute-t-il, en attendant d'avoir enfin des élections législatives ou présidentielles. Ramallah, Alice Froussard, France Inter.
La seconde partie de ces élections municipales qui concernera les plus grandes villes aura lieu fin mars. Et puis avec le boycott du Hamas, il n'y a donc pas de vote à Gaza. 3 jours de deuil au Guatemala. Les drapeaux en berne après le drame migratoire dans le sud du Mexique cette semaine. 55 personnes sont mortes, en majorité des Guatémaltèques, dans un accident de camion. Le Mexique, pays de transition vers les États-Unis, fait face à une forte pression migratoire cette année. L'entretien téléphonique entre Joe Biden et Olaf Scholz hier, le nouveau chancelier allemand, s'est donc entretenu avec le président américain. Plusieurs sujets abordés, la pandémie, le changement climatique et la réponse à apporter au déploiement des forces russes à la frontière ukrainienne. Il est 8h09 sur France Inter. À 2 semaines de Noël, on ouvre une nouvelle case du calendrier de l'Avent France Inter. Et ce matin, Voici un livre qui nous emmène au musée Yves Saint-Laurent de Marrakech, un journal de bord même, qui raconte le travail du studio K.O. qui a conduit le projet pendant 4 ans. Ouvrage que vous nous conseillez et que vous nous présentez avant tout, Corinne Pellissier.
C'est une plongée dans les coulisses de la création d'un des plus beaux musées du monde, le musée Yves Saint-Laurent de Marrakech et son assemblage en dentelle de briques. Pour les amateurs d'architecture, les passionnés de mode, les amoureux de la ville rouge qui avait tant inspiré le couturier, l'histoire d'une aventure démarrée en 2013 sur un coup de fil. Pierre Berger au studio K.O. et l'un de ses fondateurs, Karl Fournier.
Il appelle un jour à l'agence, entre midi et deux, j'étais seul, je décroche et c'était lui. Il me dit voilà, je voudrais construire un musée autour de l'œuvre de Yves et je voudrais que ça soit vous qui le fassiez. Il avait fait beaucoup de projets avec les plus grands décorateurs du monde, mais bosser avec des architectes, il ne l'avait jamais vraiment fait.
Derrière les pages de ce très beau livre, à la couverture tissée, des souvenirs, des croquis, des photos, des dessins, toutes ces choses qui habituellement ne se montrent pas, mais que l'architecte et son associé Olivier Marty ont accepté de partager à la manière d'un journal de bord.
Le moins de petits croquis a été gardé, le moins de post-it, tout est archivé. Il y a même les photos de barbecue qu'on a fait sur le chantier, le fameux gigot bitume qui cuit dans le bitume. Ça raconte un processus créatif.
Préfacé par l'époux de Pierre Berger, Madison Cox, l'ouvrage est à la croisée de la mode, de l'architecture et du design. Le récit illustré de ces 1423 jours entre le fameux coup de fil et la date d'ouverture du musée, le 14 octobre 2017.
Le musée Yves Saint-Laurent de Marrakech par le studio K.O. 45 euros. Ce livre aux éditions Fédon.
L'actualité sportive à 8h11. Avec Jérôme Val qui nous rejoint. Bonjour Jérôme.
Bonjour à tous.
La Ligue 1, Jérôme, pour commencer la 18e journée et un match haletant hier soir à Nantes.
Oui, victoire des Canaries 3-2 face à Lens. Les nordistes loupent néanmoins le coche pour monter sur le podium. Eux vont vouloir sortir de cette dernière place qui leur colle à la peau. Les Verts de Saint-Etienne sont à Reims ce soir avec un nouvel entraîneur, Claude Puel, débarqué. C'est son adjoint, Julien Sablé, qui assure l'intérim. On traverse la Manche pour aller à Liverpool et le retour de l'enfant du pays, Steven Gerrard, qui a fait les grandes heures des Reds, le milieu de terrain formé au club, 186 buts marqués en 710 matchs. À 41 ans, il a été nommé entraîneur d'Aston Villa depuis le 11 novembre et cet après-midi, Aston Villa joue à Anfield à Liverpool. Première fois à Del Bellumri que Steven Gerrard revient chez lui dans sa maison.
Il avait promis de ne jamais jouer contre Liverpool lors de son départ en 2015. Mais là, il entraîne, alors l'enfant du club ne fera aucun cadeau.
Je respecte et je comprends vraiment le bruit autour de ce match pour des raisons évidentes. Mais pour moi, ce match, c'est juste une opportunité de rivaliser avec une bonne équipe et un bon manager, avec la possibilité de gagner le match. C'est ça mon objectif principal.
Le stade d'Anfield, dans lequel il a joué pendant 17 ans, va forcément rugir de passion à son arrivée. Pas de doute pour Darren Tullet, journaliste de Bein Sport, spécialiste du foot anglais.
Il va retrouver son peuple du côté d'Anfield, tous les supporters qui lui veulent du bien évidemment, mais peut-être pas juste pendant ces 90 minutes-là. Et en espérant qu'il va revenir un jour s'asseoir sur le banc, pourquoi pas, après le passage de Jürgen Klopp.
Jürgen Klopp, l'actuel entraîneur de Liverpool, verra son contrat terminé en 2024. Alors Steven Gerrard lui succédera-t-il? En tout cas, l'entraîneur allemand en est persuadé.
Tout ce que Stevie a fait jusqu'à présent va dans la bonne direction. La question n'est pas de savoir s'il est capable d'entraîner Liverpool, mais dans combien de temps il voudra le faire.
Steven Gerrard se prépare plutôt bien. L'an dernier, il a remporté le championnat d'Écosse avec Glasgow Rangers. Et depuis son arrivée à Aston Villa, il a remporté 3 matchs sur 4.
Et vous aurez sans doute reconnu You'll Never Walk Alone, l'hymne légendaire de Liverpool.
Liverpool-Aston Villa cet après-midi à 16h, 10 ans, on passe au rugby cette fois, 10 ans que le rugby français attendait ça. Le meilleur joueur du monde, eh bien c'est Antoine Dupont.
Et c'est seulement le troisième français à être récompensé, Antoine Dupont qui va défendre son titre en Coupe d'Europe avec Toulouse. Premier match cet après-midi à Cardiff, les débuts aussi pour l'Union Bordeaux-Bègle face à Leicester avec son nouveau costume de leader du top 14. Et pour le pilier bordelais Jefferson Poirot, le club doit avoir de grandes ambitions dans cette compétition.
On sait qu'aujourd'hui on a plus de responsabilités sur les épaules, on a peut-être un peu moins le droit à l'erreur, mais c'est aussi pour ça qu'on fait ce sport, c'est pour ça qu'on essaye de bâtir un gros projet à Bordeaux, donc aujourd'hui on va pas se plaindre de ça. En interne, on a fixé nos objectifs clairs et on va pouvoir commencer cette Champions Cup avec du public, et donc c'est avec beaucoup de bonheur, de plaisir et aussi voilà, un peu de confiance et d'envie de montrer que l'année dernière c'était pas une anomalie.
Et les handballeuses françaises, elles ne sont plus qu'à un match de la qualification en quart de finale des championnats du monde, elles peuvent se qualifier dès ce soir à condition de battre la Serbie. Après les étapes américaines, la Coupe du Monde de ski débarque en France. Deux courses prévues ce week-end à Val d'Isère avec la fameuse et terrible face de Bellevarde. Et si la météo le permet, vous le savez, les chutes de neige sont très abondantes. Alors si les épreuves ont bien lieu, eh bien Alexis Pinturault, vainqueur du Gros Globe de Cristal la saison dernière, visera son premier podium de la saison.
Le journal des sports, merci Jérôme Val.
Dans le journal de Pierre Pilet, le temps.
La météo avec les poulets de Loué. Régalez-vous d'un savoureux poulet fermier de Loué, élevé en liberté. Loué, libre par nature.
Et une situation qui s'améliore dans le sud-ouest, Jean-Michel Golinski.
Baisse d'un cran de la vigilance sur les Landes et les Pyrénées-Atlantiques, repassé en orange. Maintien de la vigilance orange, avalanche, neige et pluie pour quatre autres départements pyrénéens et pour les avalanches sur l'Isère et les Savoies. Donc, dans l'ensemble, les conditions s'améliorent sur le front de la neige et de la pluie, avec ce matin l'arrivée d'une perturbation, mais en totale perte de vitesse par l'océan. Elle va progresser très lentement en journée, avec à l'intérieur des pluies très faibles, atteignant en cours d'après-midi la basse Normandie, les régions du centre Val-de-Loire et le sud de la Garonne, avec de la neige sur les Pyrénées. Du Grand Est aux Alpes du Nord, la perturbation d'hier va encore donner un peu de neige jusqu'à la mi-journée à basse altitude sur les massifs. Entre les deux, les grisailles seront suivies d'éclaircies avec un soleil plus durable pour les régions méditerranéennes, mais ce sera au prix d'un vent vers 80 ou 100 km à l'heure.
Jean-Michel Golinski, Météo France.